La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur le 93.9.
Si tu ne vis pas encore du son ou de ta passion, donne-toi les moyens de tes ambitions, prends soin de toi, trouve un job, arrondis tes fins de mois. Quand j'ai demandé hier comment faire des éditos un peu différents, Fabrice m'a dit tu peux faire un billet d'humeur. Alors j'ai pas compris parce que un billet ça sert à acheter des trucs et que l'humeur ça ne s'achète pas en fait. Donc j'ai ouvert cette émission sur les paroles de la chanson Reste en vie de Luchi. Parce que ces paroles elles me parlent et pas seulement à moi, elles parlent aussi aux 35 millions de personnes qui ont écouté ce son sur Spotify. L'homme qui murmurait à l'oreille des autres tout ce qui sommeille en une rage sourde qui gronde en nous. Pas sûr que Luigi ait déjà été caractérisé comme ça, et pourtant. Hier soir, j'étais en soirée et je suis restée beaucoup trop tard à parler de rap avec des comparses. Je leur ai dit qu'en art, en général, le plus dur, c'était de parler de soi, de ce qui nous touche vraiment, parce que c'est ce qui parle le plus aux autres. Mais en faisant ça, t'es sûr de perdre une partie de ton intimité et de t'exposer sur les réseaux sociaux. Donc, le plus courageux, c'est de s'afficher fragile, même dans le monde du plus fort. C'est là, en fait, où tu vas frapper juste. Finalement, est-ce qu'être fort aujourd'hui, ça n'est pas assumer sa fragilité ? En même temps, quand on prend ce chemin-là, on se prend quelques portes dans la gueule qui nous rappellent que la violence du monde, elle, n'a pas bougé. L'actualité n'attend pas. L'actualité, elle a déjà bien trop attendu. Vous l'avez reconnu, ça c'est Aymeric Lompré, un autre bug qui permet à plus d'un de rester en vie. Le sommaire, tout de suite. Au sommaire de cette matinale, après un édito un peu différent, donc première matinale pour Violette qui nous présente le Flash Info et une chronique. Nous aurons aussi une chronique de Fabien. On recevra dans le Zoom le Paris International Fantastic Film Festival. C'est Cyril Despontin, délégué général du festival, qui nous en parlera. Il sera interviewé par Simon. Et tout de suite, nous avons dans le grand entretien de cette matinale, nous recevons Abdel, référent BDS 94, et Imen, responsable donc de la campagne BDS, et vous serez interviewé par Hugo.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Bonjour Imen.
Bonjour.
Vous êtes donc responsable animatrice de la campagne, oui, BDS France. BDS, je le rappelle, ça veut dire boycott, désinvestissement, sanction. La campagne vise donc à encourager le boycott de certaines marques qui ont soutenu notamment les troupes israéliennes sur le terrain par l'envoi de matériel. Et nous sommes donc également avec Abdel. Bonjour Abdel.
Bonjour.
Vous êtes référent de la campagne BDS France 94 pour donc le Val-de-Marne. BDS France, donc évidemment je suis aussi avec Hugo, hein, on va faire cette interview ensemble,
bien
tous
sûr.
Les deux. Salut Hugo, ça va ?
Salut, ça va.
BDS France, vous avez plusieurs revendications principales, notamment protéger les droits des réfugiés palestiniens selon la résolution 149 et également la fin de l'occupation militaire en Palestine, en Cisjordanie et à Gaza. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, l'un de vous, comme vous le souhaitez, comment est née cette initiative et pourquoi avoir organisé cette campagne ?
Alors, la campagne BDS, elle est née en 2005 à l'appel de plus de 170 associations de la société civile palestinienne. Et cette campagne, elle s'inspire directement, c'est important, de la lutte victorieuse contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc les Palestiniens et les Palestiniennes, ils ont pris référence à cette lutte-là. C'est vraiment important. Ils s'inspirent donc de cette lutte et ils ont trois objectifs. Donc vous l'avez dit, le premier, c'est la fin de l'occupation et de la colonisation des territoires palestiniens. Le deuxième objectif, c'est l'égalité pour les Palestiniens d'Israël, qui représente quand même aujourd'hui 20% de la population en Israël. Et le troisième objectif, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens, qui est la résolution 194 des Nations Unies. Et il faut savoir que ces trois objectifs s'inscrivent tous dans le droit international. C'est vraiment une demande de respect du droit international. C'est une campagne non violente, antiraciste, internationale, qui existe maintenant partout dans le monde, et donc qui vise effectivement à adopter et à faire adopter de larges boycotts des investissements, sanctions contre le régime d'apartheid israélien, et maintenant qui est coupable d'un génocide. On en parlera peut-être tout à l'heure. Hein.
Tout à fait. Parmi ces marques, il y en a donc une que tous les Français connaissent parce qu'on va faire nos courses là-bas, c'est Carrefour. Donc on est à la radio, on est obligé de citer quelques autres marques donc, qui n'ont rien à voir. On va prendre Monoprix et Auchan. Voilà. Pouvez-vous rappeler les faits exacts que vous reprochez à Carrefour exactement ?
Oui, alors en novembre 2022, on a appris par un rapport de plusieurs ONG et syndicats, dont l'association France-Palestine Solidarité, Solidaire, CGT et d'autres, que Carrefour avait conclu un partenariat avec deux entreprises israéliennes qui travaillent dans les colonies israéliennes qui sont, au regard du droit international, des crimes de guerre. Et donc, on a demandé évidemment des connaissances à Carrefour de stopper, ce qui a été un non-retour. Donc, on a lancé une campagne de boycott Carrefour. Et on a appris par ailleurs, en plus de cette complicité donc avec les colonies illégales israéliennes, que Carrefour Israël avait distribué des paniers repas aux soldats israéliens pendant le génocide. Donc c'est une complicité extrêmement grave. Et le directeur de Carrefour, Alexandre Bompard, nous dit que ce n'est pas politique, mais en l'occurrence, on a appris aussi par ailleurs que Carrefour Israël avait fait des publicités en Israël avec la carte du Grand Israël, excluant complètement la Palestine, où on a aussi appris que Carrefour Israël avait publié des offres d'emploi dans la colonie de Malé Adonim. Les colonies sont l'obstacle principal à la paix aujourd'hui et sont des crimes de guerre au regard du droit international. Donc quand Carrefour, et par ailleurs, le criminel de guerre Benjamin Netanyahou, qui fait maintenant l'objet d'un...
On y reviendra d'ailleurs en deuxième partie
de la CPI,
d'entretien.
Il a été inauguré lui-même les magasins Carrefour. Tout ceci est fondamentalement, contrairement à ce que dit Carrefour, très politique, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on mène une campagne pour demander aux gens d'aller faire leurs courses ailleurs jusqu'à ce que Carrefour s'engage à respecter le droit international et mette fin à ce partenariat.
Vous menez une campagne très ciblée. Pourquoi la faire aussi ciblée justement ?
Parce que le boycott, ça marche quand il est ciblé, c'est ce qu'on dit et qu'on répète aux gens, à beaucoup de gens en fait, les Palestiniennes et les Palestiniens. Ils définissent trois critères donc, pour cette campagne de boycott. Le premier, c'est la possibilité de remporter des victoires. Parce qu'évidemment, si les boycotts sont très larges et entre guillemets aveugles, on n'a plus la possibilité de savoir qu'est-ce qu'on peut gagner ou pas. Donc l'un des critères, c'est vraiment la possibilité de remporter des victoires. Et pour remporter des victoires, il faut vraiment cibler sur quelques entreprises. Et le deuxième critère, un critère très important, c'est le degré de complicité de l'entreprise avec les violations du droit international. Et là, malheureusement, Carrefour, comme d'autres, on en parlera tout à l'heure, est en mauvaise place, puisqu'ils sont particulièrement complices aujourd'hui de la colonisation et du génocide en cours. Et effectivement, on appelle les gens à ne pas boycotter. On a une liste de produits qui est assez restreinte, qu'on peut retrouver sur le site de la campagne BDS France. Et vous verrez qu'il y a quelques entreprises, elles ne sont pas nombreuses, mais on appelle vraiment les gens à se focaliser maintenant là-dessus.
Et quel peut être l'impact des campagnes de ce lobbying de boycott sur les marques ? Est-ce que vous avez l'exemple d'une campagne qui a fonctionné, où vous avez réussi à forcer les marques à se désengager ? Je pense notamment à Puma ou à AXA. Vous pouvez nous expliquer en détail ce qui s'est passé pour ces deux marques ?
Alors pour Puma, on a mené effectivement une campagne depuis plusieurs années en direction de l'équipementier sportif, parce que Puma, on avait appris qu'il affiliait l'IFA en fait, qui affiliait des clubs dans les colonies israéliennes, l'association israélienne de football, et donc a été complice de la colonisation. Et la campagne Puma, elle a duré environ 8 ans. On s'est retrouvé chaque semaine devant plusieurs boutiques Puma partout dans le monde. C'était vraiment dans tous les continents, il y a des campagnes BDS, et donc dans tous les continents il y avait des mobilisations à Kuala Lumpur, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans les pays arabes, en Europe bien sûr, pour demander à Puma de respecter le droit international. Ça a duré 8 ans et on vient d'apprendre, on avait appris en décembre 2023 qu'ils allaient cesser ce partenariat, et il y a quelques jours ils ont annoncé effectivement officiellement qu'ils arrêtaient ce partenariat. Donc ils l'ont arrêté, ils disent bien sûr, bien évidemment, que c'est pas la faute de la campagne, c'est pas à cause de la campagne BDS. Nous on sait tout le travail qu'on a accompli et à quel point on est c'est important de se mobiliser et de gagner des cibles, parce que là, c'est précisément ce qui s'est passé. Mais il faut savoir que ce partenariat a pris fin un an avant la date officielle où ce partenariat devait prendre fin. Donc c'est bien les militants et les militantes de la campagne BDS qui ont forcé Puma à respecter le droit international. La deuxième entreprise qu'on avait menée depuis plusieurs années, c'est AXA. AXA, au tout départ, on a appris qu'ils avaient des investissements dans Elbit Systems, qui est l'une des principales sociétés d'armement israélienne. Elbit Systems est responsable de crimes de guerre en ce moment même dans la bande de Gaza. Et on a ensuite appris qu'ils investissaient dans les banques israéliennes. Les banques israéliennes, il faut que vos auditeurs et vos auditrices sachent que c'est le pilier de la colonisation des territoires palestiniens. Sans les banques, il n'y aurait pas de colonie aujourd'hui, sans les banques israéliennes. Donc elles sont complices, elles ont des traitements particuliers vis-à-vis des colons illégaux en Cisjordanie. Et on avait appris ce partenariat, donc on s'est mobilisé. Pareil, là aussi, campagne internationale. Chaque samedi, on se retrouvait devant les boutiques AXA pour demander aux clients de faire passer le message à la direction d'AXA, etc., et de mener des campagnes. Des tweetstorms notamment, des mobilisations. Et AXA, on a appris il y a quelques mois qu'ils se sont retirés à la fois d'Elbit Systems et des banques. Mais on a refait une enquête, on a refait une recherche, parce qu'en plein génocide, il n'y a aucune entreprise française qui ne doit participer à ce qu'il est en train de se passer. Et on a découvert qu'AXA avait réinvesti à hauteur de 150 millions d'euros dans des fabricants d'armes israéliens. Donc on n'est pas en train de blaguer là, on est en face de ce que Amnesty International en date d'aujourd'hui a reconnu comme étant un génocide en cours dans la bande de Gaza. C'est un communiqué d'Amnesty qui est sorti aujourd'hui même. Bien sûr, il y a eu 800 experts internationaux qui le disaient depuis longtemps, mais aujourd'hui on reconnaît qu'il y a un génocide en cours. Et donc on demande effectivement, on continuera cette campagne pour demander à toutes les entreprises et notamment les entreprises françaises de cesser leur complicité, parce que c'est une évidence que ce n'est pas possible, d'autant plus qu'il y a eu un avis de la Cour internationale de justice en date du 19 juillet dernier, et ça aussi c'est très important, qui demande maintenant très officiellement aux États et aux entreprises de ne pas prêter assistance au maintien de la situation du territoire palestinien occupé.
On y reviendra d'ailleurs en deuxième partie d'entretien.
Vous parliez à l'instant de nos auditeurs, justement ils sont en partie étudiants, qui dit étudiants dit petit budget, alors comment associer études et boycott ?
Bah bien sûr, quand on en a la possibilité, on a la chance à Paris en tout cas et en région parisienne et j'ai envie de dire dans beaucoup de villes de France de pouvoir avoir des alternatives, notamment à Carrefour par exemple. Évidemment, on le fait en mesure de ses possibilités. La campagne BDS, elle est là aussi pour être en solidarité avec le peuple palestinien et on fait évidemment en mesure de ses possibilités. En sachant que les cibles de BDS sont vraiment pas nombreuses, nous on appelle à cibler, on va peut-être parler des quelques marques et tout, mais on appelle vraiment à cibler quelques entreprises. Donc c'est pas quelque chose de, on va dire de, qui est vraiment lourd à porter en termes de solidarité. C'est vraiment des gestes simples de pouvoir éviter d'aller faire les courses à Carrefour, quand il y a pas non plus de grandes différences de prix entre certaines enseignes et dans la mesure du possible évidemment, à moins qu'il n'y a pas de Carrefour dans certaines villes, mais on invite vraiment par exemple les gens à faire attention là où ils achètent et notamment les cadeaux de Noël. Voilà, il y a des choses comme ça que nous on renvoie vers le site pour avoir toutes les informations sur aussi qu'est-ce qu'on peut faire en alternative, parce qu'il y a des alternatives qui sont tout le temps possibles. Et effectivement, on le disait tout à l'heure, il y a des entreprises qui sont particulièrement complices des violations du droit international. Donc étudiants et étudiantes, on a tous, en plus des manifestations, en plus de ce qui se passe dans les universités, on a la possibilité d'agir. Et bien sûr, d'agir aussi dans les universités, c'est super important. Et on salue d'ailleurs les mobilisations étudiantes extraordinaires qui ont lieu un peu partout en France en solidarité avec Gaza et le peuple palestinien.
Donc Abdel, vous êtes référent BDS pour le Val-de-Marne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les actions menées du coup sur le terrain très concrètement dans le Val-de-Marne ?
Donc sur le terrain, là, concrètement, en fait, on a rejoint la campagne BDS l'année dernière, après le 7 octobre, et on a décidé de créer des comités locaux en banlieue, parce que c'était une campagne qui était plutôt centrée sur Paris. Et aujourd'hui, on a des comités locaux dans le 94, dans le 93, dans le 78, et ça a pris une vraie ampleur, vraiment une grosse ampleur depuis un an. On est beaucoup plus nombreux qu'auparavant, et justement, on essaye d'impliquer les gens localement. C'est-à-dire que dans le 94, concrètement, on mène des actions devant les carrefours, de tractage, de sensibilisation. On a des journées nationales auxquelles on participe avec BDS en termes national, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on a une campagne BDS nationale sur tous les carrefours, dans tous les comités BDS de France. Et en parallèle de ça, dans chaque département, on a des initiatives, des ciné-débats, on va à la rencontre des jeunes, des étudiants dans les facs, on pose des tables lors de conférences, et ainsi de suite. Et donc, on incite les gens localement à nous rejoindre pour pouvoir peser, quand on se retrouve devant un carrefour à plusieurs dizaines de personnes, forcément la direction vient, commence à discuter avec nous. Pareil pour la BNP, AXA, toutes ces marques-là, en fait, dès qu'ils commencent à voir qu'il y a un mouvement avec beaucoup de personnes devant leurs enseignes, ils sortent et ils sont ouverts au dialogue.
Merci Abdel. On revient tout de suite dans la seconde partie de cette interview sur tous ces sujets, juste après avoir écouté donc Luigi, Reste en vie, je vous en ai parlé dans l'édito.
J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. CDI de 8h à 8h, semaine de 48 heures. Je n'étais qu'un gosse, un rêveur, ce qu'ils appellent un rappeur de Twitter. Je traînais dans les DM de combien de ces belles sirènes que j'invitais à mes clips moi-même. N'oublie jamais ta mission, pour un peu d'amour, un peu d'attention. Surtout si tu ne vis pas encore du son, de ta passion. Donne-toi les moyens de tes ambitions, prends soin de toi. Trouve un job, arrondis tes fins de mois. Assume-toi, c'est le premier pas. Assure-toi bien, de l'amour des gosses, du respect des anciens. Jeunes souvent mangent bien. Garde la tête haute même quand t'es en chien. Et quand tu montes, n'oublie personne en chemin. Je sais que d'avoir ta mère contre toi, c'est plus dur que d'avoir le monde contre toi. Mais j'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes. J'aimerais que tu restes en vie. 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 J'aimerais que tu restes. J'aimerais que tu restes. J'aimerais que tu restes. J'aimerais que tu restes en vie.
J'aimerais que tu restes en vie.
Merci Luigi pour l'espoir et la force. Et nous sommes toujours donc sur Radio Campus Paris pour la matinale de 19h. Et nous sommes dans la seconde partie de l'entretien de cette matinale. Et nous recevons donc Campagne BDS France avec Iman qui est animatrice de la campagne BDS France et Abdel qui est référent BDS pour le Val-de-Marne 94. Hugo, je t'en prie.
Oui. Le 21 novembre, la Cour pénale internationale de la Haye délivrait un mandat d'arrêt visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pourtant, la France pourrait lui accorder l'immunité. Pourquoi ?
C'est un véritable scandale parce que depuis longtemps, on le dit, il y a une complicité du gouvernement français avec ce qui est en train de se passer à Gaza et pas seulement du gouvernement français. Le génocide qui a lieu en cours dans la bande de Gaza n'est pas seulement lié à Israël, mais aussi au soutien et à la participation active des États-Unis et de plusieurs pays européens, dont l'Allemagne notamment, qui livre des armes à hauteur de plusieurs millions d'euros. Et la France, qui avait annoncé il y a quelque temps, continue à livrer des munitions. Alors, soi-disant, c'est pour la protection du dôme de fer d'Israël, mais c'est quand même des munitions, alors que la Cour internationale de justice et beaucoup d'experts internationaux appellent à un embargo immédiat des armes, notamment, à l'endroit d'Israël. Et donc, c'est une complicité évidente qui s'est encore manifestée avec la déclaration qui affirme que Netanyahou aurait soi-disant une immunité, ce qui est aussi un contresens au niveau juridique. Et il y a des tribunes d'experts qui ont été publiées encore aujourd'hui dans certains médias qui disent que d'un point de vue juridique, ce n'est pas exact. Il y a un communiqué sur lequel je renvoie de la Fédération internationale des droits de l'homme qui dit « la France ment ». En fait, c'est pour vous dire le degré de soutien finalement à Israël dans lequel on est tombé. Et c'est extrêmement grave parce que l'heure, elle est à des sanctions. Et effectivement, l'Espagne, par exemple, a appelé un embargo sur les armes à destination d'Israël. Certains pays comme la Belgique et l'Irlande, la Slovénie, ont appelé à la suspension des accords d'association entre l'Union européenne et Israël. Et donc il y a une complicité puisque on sait très bien que cet accord d'association il est très important et que si jamais il était suspendu, ça aurait des conséquences pour la survie de millions de personnes finalement parce que l'enjeu économique est quand même très important. Aujourd'hui, l'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël. Il faut le savoir. Et cet accord, il est fondamental. Il faut en parler. Il faut pouvoir en parler et continuer à en parler parce que c'est à cause de la non-suspension de cet accord, notamment, que Israël reste impuni. Il faut appliquer des sanctions. Et aujourd'hui, malheureusement, notre gouvernement ne défend pas ça au sein de l'Union européenne, mais même au sein du de la France.
Mais qu'est-ce que accorder l'immunité signifie exactement? Est-ce qu'on pourrait accueillir Benjamin Netanyahou sur le sol français?
Oui, c'est ce que défend cette vision de l'immunité, c'est-à-dire il serait pas poursuivi, il serait pas arrêté lors de sa venue en France, par exemple. Donc c'est par ailleurs voilà, en termes juridiques, c'est un contresens juridique, c'est faux. Il y a eu même pour vous dire à quel point ces déclarations ont même choqué jusqu'au syndicat de la magistrature qui a dû faire un communiqué pour dénoncer ces propos. Ça choque évidemment tous les juristes qui travaillent sur ces questions d'immunité, sur ces questions de CPI, parce que le rôle précisément de la CPI, c'est de ne pas échapper à la justice. C'est vraiment l'objet pour lequel elle s'est créée. Donc aujourd'hui, parler de l'immunité, c'est véritablement un blanc-seing qu'essaye de donner la France à des criminels de guerre. Et c'est scandaleux, effectivement, on le dénonce.
En janvier, Donald Trump prendra ses fonctions aux États-Unis. Qu'est-ce que cela peut changer pour le conflit israélo-palestinien?
Bah malheureusement, on s'avance vers l'abîme avec l'arrivée de Trump. Voilà, il faut savoir quand même, et ça a été assez peu invisibilisé, mais le gouvernement américain actuel, hein, donc encore avec Joe Biden, a assisté de manière militaire une aide militaire à Israël à hauteur de 20 milliards de dollars. C'est la plus forte aide militaire à Israël depuis 1959. C'est pour vous. Et cette aide-là, elle a été pour accompagner le génocide. Donc c'est extrêmement grave en termes de complicité. Il y a encore récemment, encore quelques jours, plusieurs milliards de dollars qui ont été pour l'aide militaire à Israël. Et malheureusement, avec Trump, ça ne peut que s'accentuer. Avec l'arrivée de Trump, ça ne va que s'accentuer. Voilà, donc c'est extrêmement grave parce qu'effectivement, on est dans des logiques véritablement guerrières, racistes, une vision du monde où il y a voilà, le choc des civilisations, etc. Et les Palestiniens attendent des sociétés civiles. Vraiment, on n'attend pas de changement effectivement au niveau du gouvernement des États-Unis, mais attendent des sociétés civiles qu'elles agissent. Et c'est pour ça notre rôle en tant que militants et militantes BDS est solidaire et sympathisant. Et en tout cas, même ceux qui ne sont pas militants peuvent participer à nos côtés. Il ne faut pas forcément être engagé pour participer à la campagne BDS ou la soutenir. Et c'est une manière efficace parce qu'effectivement, ça s'empire et ça s'empire partout dans le monde, j'ai envie de dire, mais on craint le pire. C'est déjà le pire, on ne va pas se mentir, c'est déjà le pire dans la bande de Gaza. Depuis un an, il y a plus de 43 000 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été assassinés, près de 100 000 blessés. Des gens qui souffrent de la famine, une famine jugée catastrophique selon le Programme alimentaire mondial, des gens qui meurent parce qu'ils essayent d'échapper, c'est une terreur quotidienne, les gens essaient d'échapper à des bombardements, ils sont bombardés quand même, on leur dit ils n'ont aucun endroit où fuir, contrairement à d'autres conflits dans le monde. Dans la bande de Gaza, les habitants, les civils ne peuvent pas fuir. C'est rarement vu dans l'histoire d'un conflit, on n'appelle pas ça un conflit, on appelle ça une guerre coloniale, mais là les gens n'ont pas la possibilité de fuir, ils se font bombarder même quand l'armée israélienne leur dit d'aller se réfugier dans des écoles de l'ONU. Et d'ailleurs l'armée israélienne, on le sait et c'est encore documenté par Médecins Sans Frontières qui fait un travail extraordinaire sur place et plusieurs autres ONG, Israël cible aussi des humanitaires, des gens qui travaillent pour faire en sorte que la population ne soit pas affamée. Ils ciblent, il y a encore trois jours, des humanitaires qui ont été...
Des humanitaires de l'association World Kitchen, trois qui ont été massacrés cette semaine, il y a trois jours.
Et des journalistes.
Plus de 200 en un an, c'est du jamais vu. Dans aucun conflit, aucune zone de guerre, on a assisté à autant de journalistes morts. C'est du jamais vu le fait qu'on ne laisse entrer aucune rédaction étrangère sur le territoire. Donc c'est vraiment... Israël souhaite vraiment bloquer toute la propagande est continuée ainsi. Et il faut savoir que 70% des civils qui ont été massacrés sont des femmes et des enfants.
Vous parlez de soutien de participants à votre campagne. En début de semaine, un soutien de taille s'est ajouté, puisque le LFI, la France Insoumise, vous a rejoint. Est-ce que cela implique une plus grande mise en lumière pour votre campagne ?
On est très contents, effectivement. On souhaite la bienvenue à la France Insoumise qui nous a rejoints, effectivement, qui ont fait un communiqué, d'ailleurs, qui a été publié il y a quelques jours. C'est vraiment important parce qu'on est dans un moment, je vous le disais, un moment important face à l'ampleur depuis ce que les Palestiniens appellent la Nakba 1948, l'expulsion de 758 000 Palestiniens et Palestiniennes. On n'a jamais vécu une catastrophe de cette nature, en fait. Le peuple palestinien n'a jamais vécu ça. Et donc, face à ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza, on a un devoir de solidarité qui est plus que jamais important. Et c'est pourquoi la campagne BDS France, elle invite toutes les organisations, les syndicats, les structures qui ne nous ont pas encore rejoints à adhérer à la campagne BDS, à rejoindre cette campagne. C'est l'outil principal de solidarité, l'outil non violent qui est à nos dispositions en France, principal, parce que bien sûr, il y a beaucoup de campagnes où on peut apporter une solidarité, on peut faire de l'humanité, on peut donner à beaucoup d'ONG, mais là, nous mobilisons pour faire changer le statu quo. Et donc, c'est très important aujourd'hui que des organisations, donc on parlait de la LFI, on est vraiment ravis et on est très contents de ça, et on invite vraiment aujourd'hui toutes les organisations antiracistes,
les syndicats étudiants
notamment, voilà.
La CGT vous a rejoint également, non ?
Alors il y a des sections de la CGT qui nous ont rejoints, comme l'UD Paris 75, l'UD 93, la Fédération des services publics, et on espère bientôt que la CGT nous rejoindra à l'échelle nationale également et que d'autres structures nous rejoindront, parce qu'effectivement, nous le disons depuis le début, le problème n'est pas juste les colonies, on le voit aujourd'hui, le problème c'est aussi Gaza, c'est aussi la loi État-nation qui discrimine la population palestinienne à l'intérieur même d'Israël, et c'est toutes les discriminations racistes en Israël qu'on combat, et effectivement l'un des moyens d'agir pour la paix et la justice dans cette partie du monde, c'est de participer à la campagne BDS, ou en tout cas de diffuser de l'information.
Et justement, en parlant de soutien, comment est-ce qu'on vous rejoint ? Où est-ce qu'on vous rejoint ? Vous avez un site internet, un téléphone peut-être ?
Oui, alors on a un site internet qui s'appelle www.bdsfrance.org. On a des réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux de BDS France. Moi et Abdel, on fait partie du groupe BDS France Paris Région Parisienne. On a un compte Instagram, Twitter, Facebook, on est un peu sur tous les réseaux. On peut nous rejoindre dans les différentes villes. On peut aussi se mobiliser dans les universités. On a publié notamment beaucoup d'informations pour convaincre aussi. Ce qu'on demande, c'est aussi la fin des partenariats avec les universités israéliennes qui sont, il faut quand même le rappeler, elles sont, toutes les universités israéliennes ont des liens avec l'armement et l'industrie militaire israélienne. Et donc ça, c'est important que les gens soient au courant. On renvoie aussi vers un document qu'on a publié sur le site de BDS France sur ce sujet-là spécifique. C'est une manière de participer pour les étudiants et les étudiantes, mais plus largement, on peut s'impliquer en rejoignant des collectifs locaux dans les différentes villes de France.
Merci beaucoup, Abdel et Imen, d'avoir été présents.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci Hugo. Imen, je rappelle donc que vous êtes animatrice de la campagne BDS France et Abdel, référent BDS du Val-de-Marne, interviewé donc par Hugo et un tout petit peu aussi par moi. Et tout de suite, nous allons écouter le premier flash info de Violette.
Le flash info de la matinale de 19h.
Commençons avec l'actualité chaude en France. Vous ne l'aurez pas raté, Barnier, c'est fini. Le gouvernement de Michel Barnier a été renversé par une motion de censure ce mercredi 4 décembre. Les députés de la gauche et de l'extrême droite se sont alliés pour atteindre les 331 voix en faveur de la destitution, soit largement plus que les 288 voix nécessaires. Cette sanction fait suite à l'utilisation par le Premier ministre de l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer en force son budget de la sécurité sociale. Résultat, Emmanuel Macron devra bientôt choisir un ou une nouvelle première ministre qui tentera de trouver des compromis à l'Assemblée. En ce qui concerne l'actualité européenne, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, est actuellement à Montevideo, capitale de l'Uruguay, où elle pourrait bien signer l'accord de libre-échange avec le Mercosur. La France est pourtant radicalement opposée à la ratification de ce traité, accusée de mettre en danger les agriculteurs européens soumis à des normes environnementales strictes. La colère des agriculteurs continue donc de monter dans un environnement politique tendu. En Syrie, Alep, la deuxième ville du pays, est désormais aux mains de l'Organisation de Libération au Levant, un groupe islamiste opposé au président Bachar el-Assad. Pour rappel, le régime de Bachar el-Assad, soutenu par la Russie et l'Iran, instaure un climat de terreur dans un pays déchiré par la guerre civile depuis 2011. La prise d'Alep par le groupe extrémiste déclenche donc de nouvelles incertitudes dans la région entre l'arrivée de soldats irakiens soutenant le régime de Bachar el-Assad et les offensives des groupes rebelles. Elle questionne surtout sur le futur des 2 millions d'habitants de la ville. Et pour l'actualité culturelle, enfin, J-2, la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris approche à grands pas. Et notre cher président a vu les choses en grand. Une cinquantaine de chefs d'État, dont Donald Trump, sont attendus ce 7 décembre. La cérémonie s'annonce grandiose. Après un discours officiel donné par Emmanuel Macron, une messe sera célébrée, marquant la réouverture officielle de la cathédrale. À partir de 21h commencera la soirée concert, avec des concerts de chants lyriques par la maîtrise de Notre-Dame de Paris et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Clara Luciani, Vianney et Garou seront aussi de la fête. La cérémonie sera retransmise sur France Télévisions.
Merci Violette pour ce flash info très complet. Vous avez peut-être envie de voguer avec un ami imaginaire, ça va vous être permis tout de suite. C'est Billy, ami imaginaire.
Où as-tu caché ta lumière ? Je sens qu'elle a quitté mon ciel.
Ami imaginaire de Billy. Et tout de suite, on va écouter les infos insolites par Fabien.
Bonsoir.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Alors Fabien, dis-nous tout.
Eh bien, on va commencer avec un café qui est un peu particulier, qui a été inauguré le 28 novembre à Cadalène. C'est une petite commune qui est située près d'Albi. Il est géré par une association et il est installé dans le jardin d'un EHPAD. Et il est ouvert à tout le monde. C'est un projet donc qui est solidaire et intergénérationnel, qui permet de créer du lien et de la convivialité entre les résidents et les habitants. Donc le café a été méticuleusement aménagé par l'association Tous au CAF, qui loue les locaux à l'EHPAD. Et tout est évidemment adapté au personnel à mobilité réduite. Il dispose de deux accès différents, l'un pour les 86 résidents de la maison de retraite et son personnel, et l'autre pour les 1500 habitants de Cadalène. C'est bien plus qu'un café de village, c'est un lieu de convivialité où les gens peuvent se rassembler et partager des bons moments. Le cafetière, donc c'est son nom, est ainsi composé d'une partie bistrot où sont servis des produits locaux. Il y a aussi un espace détente où l'on peut lire et jouer à des jeux de société. Mais la pièce maîtresse, c'est le baby-foot qui a rencontré un grand succès lors de l'inauguration à laquelle plus d'une centaine de personnes ont assisté. Pour le moment, le café associatif est ouvert deux jours par semaine, le vendredi de 18 à 23h et le dimanche de 14h à 18h. Et ensuite, si vous avez besoin de rire, il y a un numéro de téléphone gratuit qui est ouvert et on s'y bidonne. L'appel du rire, c'est le nom du service lancé par l'association Espace Vital et l'Institut du Français du Yoga du Rire. Au bout du 02 72 03 50 51, un bénévole répond et rit avec vous. En gros, vous téléphonez, quelqu'un décroche et ensemble, vous riez. C'est simple et idéal pour bien commencer la journée, non ? L'appel dure en général 3 minutes, c'est carrément anti-stress, chaque appel est conçu pour instaurer un moment de légèreté et de positivité. Il s'agit d'un appel téléphonique où l'on rit pour rire, sans blague ni histoire drôle. Et même si l'on n'est pas forcément tous aussi sensibles, c'est un petit shot de bonheur que d'entendre quelqu'un rire pour de vrai. Et c'est bien l'objectif. Et nombreux ont été d'accord avec cette affirmation car les appels se succèdent. Et si jamais il y a des gens qui sont vraiment tristes qui téléphonent, alors les bénévoles, ils font leur mieux, ils les renvoient vers des professionnels, car le but n'est quand même pas de tourner la psychothérapie, ils peuvent aussi simplement rigoler ensemble. Alors l'appel du rire, c'est le 02 72 03 50 51, et c'est ouvert de 10h à 12h30, de 14h à 18h, du lundi au vendredi. Et ensuite, donc le maire de Bretagne de Marsan, dans les Landes, il ne manque pas d'humour, il a signé un arrêté réglementant la tournée du Père Noël dans la nuit du 24 au 25 décembre. C'est un peu de magie de Noël en pleine crise politique et sociale qui ne fait pas de mal. Dans les Landes, le maire de la petite commune de Bretagne de Marsan, Dominique Clavé, il a pris un arrêté réglementant la distribution des cadeaux par le Père Noël dans la nuit du 24 au 25 décembre. Donc concrètement, l'arrêté autorise le Père Noël et les reines qui tirent son traîneau à survoler sa commune entre le 24 décembre et le 25 décembre à 5h. Un espace d'atterrissage est réservé sur les toits des maisons et le Père Noël a même la permission de faire paître ses reines sur les espaces enherbés de la commune.
Merci beaucoup Fabien, tu as essayé les appels du rire ?
Non, j'ai pas encore essayé.
Ok.
Je voulais essayer en direct, mais bon, ils n'ont pas voulu.
Tout de suite, on va recevoir au téléphone Cyril Despontin, qui va nous parler donc dans le Zoom du Paris International Fantastic Film Festival.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Interviewé donc par Simon. Bonjour Cyril, vous nous entendez ?
Parfaitement.
Oui. Vous êtes donc délégué général du festival.
Exactement. Bonsoir Cyril Despotin. Le PIF, c'est comme ça qu'on appelle ce festival. Et c'est un festival qui a démarré hier avec une cérémonie d'ouverture qui a été marquée par la projection de Hic de Joseph Kahn. Est-ce que jusqu'à maintenant, le 13, puisque c'est votre 13e édition, vous porte bonheur ?
Alors oui, pour le moment ça va, ça se passe plutôt pas mal, on n'a pas à se plaindre.
Parce que comme c'est
en... Il n'y a pas de problème technique, donc tout se passe bien, les gens ont l'air d'être contents, donc oui, c'est le 13 porte bonheur pour le moment.
Parce que évidemment, le 13 dans le cinéma de genre et le cinéma fantastique, c'est toujours un nombre qui peut mal tourner. Pour le coup, le PIF 2024, c'est 10 longs métrages, 16 courts métrages en compétition, 6 longs métrages et un seul court en hors compétition, 5 séances cultes, 3 séances parallèles et une interdite. Quel est le lien de toute cette sélection ?
Alors déjà, que les films soient fantastiques. Alors attention, fantastique,
qu'est-ce que c'est,
pas forcément
fantastique
naturel,
pour vous,
hein, ouais. Ça peut être des ce qu'on appelle des slashers, des choses comme ça et tout. Voilà. Des films de genre, comme on dit souvent. Voilà, c'est ça qui relie les films entre eux. On a un festival de films de genre et voilà. Et on a, à part la séance qui s'appelle la séance parallèle, où c'est des films un peu plus lointains avec le genre, mais qui ont toujours ce petit truc en plus, mais tout le reste, c'est vraiment ça qui les relie entre eux, c'est leur appartenance au genre.
Et qu'est-ce que donc dans ce genre fantastique, il y a ça regroupe plusieurs éléments. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait un petit peu des plusieurs films qui sont projetés là ce week-end jusqu'à mardi?
Oui, là je regarde la programmation, j'en fais des yeux. Il y a des films de science-fiction par exemple qui se passent dans l'espace ou qui se passent dans des mondes parallèles. Il y a des thrillers, il y a des histoires de femmes qui sont poursuivies par des méchants shérifs. Il y a histoire de comment dirais-je de d'expérimentation qu'on m'a tourné, voilà, c'est vraiment de tous ces styles là voilà, il faut qu'il y ait quelque chose un petit peu dans le genre, c'est ça qui fait que ça les relie entre eux, et ils ont tous leur style différent, il y a pas un film qui se ressemble plus qu'un autre, voilà, c'est vraiment un parcours, voilà, pendant une semaine vous allez voir un peu ce que le genre a proposé dans sa plus grande globalité, quoi.
Eh ben, justement, vous parliez de films de science-fiction dans l'édito de cette 13e édition, l'équipe du festival note, je cite, que l'année dernière était dominée par des films ultra-violents et des boucles temporelles, alors que cette année, justement, met plus en valeur les films de science-fiction dont vous parlez et qui mettent particulièrement en avant l'avenir incertain, je vous cite, de notre planète, qui ont plutôt été légion dans la programmation. Est-ce que c'est un choix éditorial de la part des équipes du PIF, ou alors est-ce que c'est le PIF suit un cycle qu'il peut y avoir dans le cinéma aujourd'hui qui tend plus vers l'écologie et les questions un peu de climat?
Alors, je pense que c'est entre les deux. Donc déjà, il y a plus de films qui parlent de ça, donc forcément, de facto, vous en voyez plus et vous risquez de plus facilement les programmer. Et c'est peut-être inconscient, c'est peut-être le côté un peu anxiogène de notre époque qui fait que quand on voit des films qui parlent de ça, ça tout de suite, ça fait peut-être plus tic dans notre tête, peut-être plus en parler, quoi, des questions sur la natalité, sur des questions sur l'avenir de la planète, des choses comme ça. Tout, ouais, c'est vraiment des ouais, c'est ça fait écho parce qu'en ce moment, on vit une période pas facile, quoi.
Sur le plan climatique notamment, et justement cette question de l'écologie, elle est marquée de plusieurs manières dans la programmation. Je note You Are the Universe de Pavlo Ostrikov qui sera projeté, si je ne dis pas de bêtises, samedi, qui est vraiment un film de science-fiction, on va dire pur jus, quoi, vraiment qui se passe dans l'espace, enfin et qui traite en sous-texte de la question climatique. Mais il y a aussi d'autres films comme The Assessment de Fleur Fortuné, qui sera plutôt diffusé lundi, où là on est plutôt dans une histoire qui se passe après le changement climatique, quoi, après la destruction du monde par le changement climatique. Comment on lit tous ces films-là, enfin, comment se passe la programmation de ce genre de films?
Alors, je pourrais mentir et vous dire que tout est prévu, qu'on a prévu quelque chose de construit, ouais. Et tout. Ouais, non, mais c'est vraiment, pour le coup, les films nous ont plu. On les programme, et après, une fois qu'on les programme, on recule un petit peu, on se dit, ah ouais, tiens, il y a quand même des patterns qui se créent, des choses comme ça et tout, mais ce serait vous mentir de vous dire que c'était conscient de vouloir créer une progression, une gradation, je sais rien, voilà, non, vraiment, c'est juste à la base des très bons films de genre qu'on a vu cette année, des films qui ne sont pas encore sortis, c'est des avant-premières pour tous ces films-là, donc c'est des films qui sortiront en 2025 en salle ou pas, d'ailleurs, on passe beaucoup de films des fois qui ne sortent pas en salle, voilà, du coup, ouais, il n'y a pas, je peux, voilà, en fait, nous, on a vu 400 films, je crois, pour en choisir au total une vingtaine, donc forcément, dire qu'on a fait des choix, c'est vraiment plutôt la qualité des films qui a fait qu'ils ont été choisis.
Et c'est venu au fur et à mesure. Vous le disiez, il y a des films qui sont destinés aux salles de cinéma, mais d'autres aussi qui sont aussi des téléfilms. Est-ce que il y a notamment dans leur compétition Mortelle Raclette de François Descraques, donc qui est plutôt une comédie d'horreur, comme peut le laisser entendre le titre. Est-ce que justement c'est aussi une vocation du PIF de lier des produits plus télévisuels avec des films de cinéma?
On va dire que ça dépend de la qualité du film. C'est-à-dire que le film de François Descraques, il a été fait et pensé pour une diffusion sur Canal+. Mais moi, quand je vois un film. En fait, il a toutes les qualités, toutes les techniques d'un film. Certes, il est pensé pour une chaîne de télévision, mais il a les capacités techniques, scénaristiques. Enfin, c'est un vrai film de cinéma qui va être diffusé sur une chaîne de télé, d'ailleurs une chaîne dédiée au cinéma, ce qui est plutôt logique. Ouais, non, pour le coup, il n'y a pas de doute. Il y a un autre film comme ça qu'on passe qui s'appelle Hérésie, qui est un film des Pays-Bas. Et en fait, lui, pareil, c'est un film qui est pensé à la base pour la télévision, mais quand on le voit, il ne fait pas du tout tâche sur un écran de cinéma. Au contraire, il a l'impression qu'il a été pensé pour ça, alors qu'à la base, c'est une économie pour la télévision, c'est un film dédié à la télévision. mais les réalisateurs, vous leur donnez un petit peu, vous leur donnez des contraintes et ils vous font des merveilles avec ça, quoi.
C'est intéressant, notamment de la part de pays scandinaves, c'est une vraie tradition et c'est assez précurseur ces pays-là dans le rapport entre télévision et cinéma où il y a beaucoup moins de frontières, c'est intéressant de le dire. Est-ce que le PIF aussi, justement, vous disiez qu'il y a certains films qui ont vocation à être projetés en salle plus tard en 2025, il y en a d'autres qui soit ne trouveront pas de distributeur et du coup ne pourront pas être diffusés, soit qui vont sortir directement en VOD ou SVOD. Est-ce que justement, le film, c'est une plateforme de diffusion pour le film de genre en salle aussi. Ça, vous avez cette vocation-là ?
Oui, en fait, ce qui est marrant, c'est que là, comme c'est la 13e édition, donc on a 13 ans de recul, et effectivement, il y a plein de films qu'on a passés qui sont mortels, mais qui sont jamais sortis en France en salle. Avec de la chance, ils sont sortis en vidéo, mais des fois pas du tout. Et c'est vrai que des fois, la seule chance de pouvoir les voir en salle ou voilà, dans ces conditions-là, c'est lors d'un festival, pas que le nôtre. Hein, les autres festivals en France jouent le même rôle, mais ouais, des fois, vous allez pouvoir dire 10 ans après, ben ouais, ce film-là, moi, je l'ai vu en salle. Et on n'est pas beaucoup en France à l'avoir vu en salle parce que c'était dans ce festival-là. Et depuis, il a été montré qu'en vidéo et pas sur un écran de cinéma. Donc oui, c'est un peu des fois la seule chance de voir un film pensé pour le cinéma dans une salle de cinéma.
Une autre des missions, je dirais, du PIF, c'est aussi de mettre en valeur la création française et la création de films de genre français, sachant qu'il y a un peu un imaginaire où le film de genre français, c'est toujours un peu en train de naître, c'est toujours en essence. Et justement, il y a une compétition, c'est pour ça qu'il y a une compétition spécifiquement française pour les courts-métrages, en parallèle d'une compétition internationale, vraiment France et internationale, c'est aussi pour vraiment mettre en valeur le cinéma français de genre.
Oui, après on n'a rien inventé, hein, beaucoup de festivals, même genre les festivals allemands vont faire ça avec les sélections allemandes et les sélections internationales, donc on n'a pas inventé la notion de compétition uniquement française, mais effectivement oui, ça nous tenait à cœur de montrer que dans les jeunes réalisateurs, les jeunes réalisatrices, il y a des vieilles, des talents, des choses importantes et tout, et qui ne demandent qu'à éclore. Un exemple tout simple, Arthur Mollard, c'est un réalisateur qui a gagné 2 fois le Grand Prix chez nous. Et son premier long métrage vient de sortir là, fin novembre, via Parasomnia, qui est une boîte de production qui essaie de faire des films de genre en France pour 1 million. Bah, il avait gagné 2 fois le Grand Prix chez nous pour ses courts métrages, et on est super fiers de le voir arriver au long, quoi.
Et dans cette même démarche, il y a aussi le Grand Prix Climax qui sera décerné demain matin entre 9h et 11h. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette sélection très particulière, parce que c'est pas des films, ce sont des films en devenir, les sélections du Grand Prix Climax.
Alors Climax, je vais pas trop pouvoir parler pour eux parce que ouais. c'est une association indépendante qu'on héberge depuis quelques années au PIF. On les connaît très bien, hein, et on est très fiers d'avoir ça. C'est plus le pendant, on va dire, professionnel du festival, même si du coup, si vous n'êtes pas professionnel, c'est toujours intéressant à regarder. Et là, du coup, comme vous dites, c'est des scénaristes qui viennent présenter leur œuvre. Ils sont plusieurs à avoir postulé avec un scénario, et 5 ont été retenus. Et donc demain, il y a le résultat, on sait, des 5 qui sera le gagnant de cette année pour le prix Climax. Et après ça, il y a un débat qui est organisé avec les membres du jury qui vont débattre sur un sujet. Voilà. C'est à la fois la remise d'un prix, avec on voit les 5 finalistes, et après un débat sur un thème donné, quoi.
Et pour finir, le festival donc se termine mardi prochain avec la projection de The Surfer de Lorcan Finnegan, réalisateur du troublant Vivarium, qui était sorti en France le 11 mars 2020, donc sorti en France le 22 juin 2020 du coup. Et surtout, c'est un film qui voit cette fois Nicolas Cage au casting, sachant que vous avez déjà joué l'année dernière un film avec Nicolas Cage avec le film Dream Scenario. Est-ce qu'il y a un pattern du PIF avec Nicolas Cage, ou alors c'est qui est spécifique au PIF, ou alors c'est juste vu qu'il est omniprésent dans le cinéma de genre, forcément il y a un moment Nicolas Cage dans le festival.
On vous laisse répondre très rapidement.
Nicolas Cage, c'est comme l'or, c'est une valeur refuge, donc voilà, si on a un Nicolas Cage, c'est bien, c'est parfait pour faire un festival, voilà, c'est comme de l'or.
Et ce sera à 20h donc au Max Linder, suivi d'une fête de clôture au Corcoran's Irish Pub qui est situé juste en face. Et merci beaucoup Cyril Despontin d'avoir été au micro de ce Zoom. Rendez-vous donc jusqu'à mardi au cinéma Le Max Linder. Plus d'informations sur le festival en allant sur le PIF, pif.fr. Et on se quitte avec un autre 13 que la 13e édition. Cette fois, c'est 2013, année où le PIF a projeté le Final Cut de The Wicker Man de Robert Hardy, et dont on va écouter la chanson d'ouverture. Merci beaucoup.
Paul Giovanni, Cornrings.
It was upon a Lammas night when corn rigs are bonny. Beneath the moon's unclouded light, I held a while to Annie. The time went by with careless heed, till tween the late and early. With small persuasion she agreed to see me through the barley. Corn rigs and barley rigs and corn rigs are bonny. I'll not forget that happy night among the rigs with Annie. Was all my own. I loved her most sincerely. I kissed her o'er and o'er again among the rigs of barley. Corn rigs and barley rigs and corn rigs are bonny.
C'était Corn Rigs de Paul Giovanni. On accueille Violette dans le studio qui nous parle de la vie amoureuse qu'elle partage avec la radio, un peu comme nous tous à Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Et oui, en tant que passionnée de radio qui se respecte, c'est un peu les émissions qui rythment mes journées. Et le matin en particulier, toute ma routine se cale sur la matinale de France Inter. Alors concrètement, ça ressemble à quoi ? 8h08. Mon radio réveil sonne. Vous savez, celui que mes parents m'ont offert pour mes 10 ans. Je suis réveillée par le doux son de la voix du journaliste info de 8h. Je referme un peu les yeux parce que le son me berce. Donald Trump a été élu président des États-Unis. Oh, je me mets un coussin sur la tête. Bon, au moins, il y a des nouvelles qui réveillent. Jordan Bardella a sorti un livre. Oh, comment être de bonne humeur. La journée commence bien. 8h15, l'heure de la météo. J'écoute attentivement pour savoir quel temps il fera dans le Morbihan ou dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, on a toujours droit à un petit dicton du type « N'oubliez pas que s'il pleut à la Saint-Martin, l'hiver sera bien froid sa mère ». Bon, j'ai inventé ce dicton, vous doutez bien. Bref, je finis par me tirer du lit, j'allume mon autre radio, celle qui est dans la cuisine, pendant que mon café coule. Pour être tout à fait honnête, mon café coule pas, vraiment, puisque je suis étudiante, donc j'ai une machine à piston bien éclatée. Mais bref, passons. À ce moment-là, en général, j'ai encore les yeux fermés, j'ai allumé aucune lumière parce que celle de ma cuisine me donne une vibe d'hôpital, donc il n'y a que mes oreilles qui marchent, quoi. 8h17, Pierre Aski commence sa chronique géopolitique, pile à l'heure pour manger mon petit-déj. Je me sens tellement proche de lui depuis que je l'ai ajouté sur LinkedIn à mes relations. Il me reste 13 minutes et pas une de plus pour avaler mon café et mes tartines. 8h20, Léa Salamé et Nicolas Demorand commencent leur entretien. Qu'est-ce que je les aime ces deux-là. J'avoue que Nicolas Demorand a quand même une manière un peu bizarre de parler et Léa Salamé peut être un peu agressive, mais bon, il suffit d'écouter son interview de 9h20 et c'est « Et Dieu dans tout ça » pour être attendri. Et voilà, les deux ensemble qui se passent la balle pour asséner leur invité de questions, quel bonheur. Et puis, pour peu que l'invité soit un peu à droite, génial, il y a de l'ambiance. Alors, qui vont-ils dégommer ce matin ? Le porte-parole du Rassemblement National ! Bingo ! 8h30, merde, faut que je me bouge, je vais être en retard. J'étais tellement obnubilée par les questions de Léa, répondez-nous, répondez aux Français, que j'ai pas vu le temps passer. Encore 17 minutes de passage à tabac, je monte le volume pour bien entendre sous la douche. C'est fou parce que la douche c'est parfait pour entendre les mots-clés. Parfois, pas besoin d'entendre si bien que ça l'entretien, il suffit de faire confiance au jet d'eau pour trier les infos nécessaires. Alors, avec le porte-parole du Rassemblement National, en gros j'ai entendu immigration, pouvoir d'achat, danger, banlieue, à l'aide, j'ai que 3 idées politiques, je teindrai jamais les 20 minutes d'interview. Bon, la dernière, je suis pas sûre, mais bon, comme je vous disais, il y avait le bruit du jet d'eau. 8h40, je sors de la douche, brossage de dents. Mais il y a trop d'immigrés en France, Madame Salamé. Bon, c'est fou, il s'arrête jamais, envie de lui cracher mon dentifrice dessus. Ma coloc me demande pourquoi je me tape une barre, je lui réponds que c'est l'autre facho qui raconte n'importe quoi. 8h47, ah, mon chouchou Claude Askolovitch, quand c'est Claude, c'est l'heure de s'habiller. Pantalon blanc ? Ah bah non, Marie-Pierre de la météo a dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Ok, pantalon noir. Claude me parle d'éoliennes en Loire-Atlantique, puis d'évangiles. Hein ? Comment on est arrivé aux évangiles ? Bon, pas grave, ça reste mon chouchou. 8h52, l'heure du maquillage, je me munis de mon anti-cerne. Mathilde Serrel prend le micro pour nous parler d'une nouvelle tendance. L'orgasme qui donnerait un teint parfait. Putain, j'ai grise mine ce matin, est-ce que je devrais... Non, mais ça va pas, on se reprend, je suis à la bourre en plus. 8h55, billet d'humeur d'un random humoriste, on sait jamais qui ça va être. Parfois, il y a Philippe Catherine qui chante une chanson aux paroles complètement perchées. Parfois, c'est Paul Mirabel qui fait des blagues sur son ton monotone, là. Bon, moi, ça me perturbe dans ma routine matinale. Du coup, je rate complètement mon trait de liner. 9h, encore à galérer sur mon trait de liner, il y en a partout, je ressemble à rien, je m'énerve. Les 4 bips sonnent 9h, merde, je suis encore à la bourre. Vite, j'attrape les chaussures, mon manteau, je cours partout. Début du débat du 7-10. Hein ? Début du débat du 7-10, mauvais signe ça. Je regarde mon tel, 9h07, et merde, je suis encore à la bourre.
Merci Violette, reviens quand tu veux nous faire ce genre de chronique, ça fait du bien, presque un peu de littérature. Merci à Nils, à la réal de cette émission. Merci à Fabien pour sa chronique, à Simon qui a interviewé Cyril Despontin du Paris International Fantastic Film Festival, et merci à Campagne BDS France d'être venu en studio interviewé par Hugo tout à l'heure. Le Flash Info, c'était aussi Violette. Merci à Maïwen et à Alice qui sont à l'organisation et la coordination de cette matinale. À très vite. Vite.